le magazine du week-end. Oumi Diallo.
Bonjour et bienvenue dans le magazine du week-end. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 13h30 pour cette émission préparée par Benjamin Trèves, réalisée par Xavier Joly et à la technique Anthony Thomasson. Apparu en 2009 avec le Bitcoin, il existe aujourd'hui près d'un millier de crypto-monnaies et parmi celles-ci, les stablecoins sont les premières à disposer d'un cadre légal depuis l'adoption et la signature du Genius Act par Donald Trump mi-juillet. Innovation source de fantasmes, les monnaies virtuelles sont désormais un instrument bien réel de pression dans un contexte géostratégique de plus en plus tendu. Pour comprendre comment et pourquoi, avec nous en studio, Claire Balva, bonjour.
Bonjour.
Entrepreneur et co-auteur de Bitcoin et crypto-monnaies faciles. À distance, Céline Antonin, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques et co-auteur de Crypto-actifs, une menace pour l'ordre monétaire et financier. Et Hubert Devauplane, avocat au barreau de Paris et professeur de droit bancaire et financier international. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Hier matin, notre stagiaire Benjamin est allé interroger les Français sur ce sujet complexe.
Bonjour, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une crypto-monnaie ?
Une quoi ?
Crypto ?
Je connais pas.
Je sais que c'est par rapport à la blockchain, c'est une monnaie alternative. Enfin, il y a tout un bordel comme ça, mais ouais.
Non, je sais juste que c'est une monnaie virtuelle.
On peut payer si on gagne des sous avec ça, mais on a entendu qu'ils gagnent des sous avec.
Par contre, on entend en parler partout, Ça a l'air de bien marcher.
J'ai du Bitcoin et de l'Ethereum.
Bien sûr, c'est ces fausses monnaies qui font un bœuf terrible actuellement. Mais bon, c'est pas pour moi.
Ah oui, c'est de la monnaie factice. Enfin bon, oui. Mais je n'en ai pas et je ne cherche pas à en avoir.
Une crypto-monnaie ? De la monnaie cryptée.
On se sent moins seul d'un coup. Et blague à part, hein, la dame a raison. C'est une monnaie virtuelle cryptée qui s'échange sur un système informatique appelé blockchain, tout simplement, contrairement à l'argent classique qui passe par une banque centrale. Crypto parce que crypté, protégé par un code personnel. Et une fois décrypté, donc débloqué, il est possible de réaliser les mêmes transactions qu'une monnaie traditionnelle, comme des achats et des virements. C'est pourquoi les experts préfèrent le terme de crypto-actifs. Ces actifs sont des jetons virtuels appelés tokens, dont la valeur est fondée sur l'offre et la demande. Petit tour de table rapide, est-ce que cette définition vous convient, Hubert Devauplane ?
Oui, on peut dire ça comme ça, effectivement, ça ressemble à de la monnaie, c'est pas de la monnaie, ça fonctionne comme de la monnaie, mais c'est pas de la monnaie. Donc effectivement, c'est peut-être une bonne définition.
Céline Antonin ?
Oui, alors moi j'ai une réserve, c'est que effectivement, enfin comme vient de le dire Hubert Devauplane, je considère que ce n'est pas de la monnaie parce qu'on ne répond pas aux trois caractéristiques de la monnaie, hein, qui sont le fait d'être une réserve de valeur, sachant que on a certains cryptoactifs qui peuvent avoir une grande volatilité, et le fait d'être intermédiaire des échanges. Quand vous parlez du fait que ça peut permettre de payer, aujourd'hui on n'accepte pas le paiement en Bitcoin par exemple, donc ce n'est pas non plus un intermédiaire des échanges. Donc il y a encore, enfin
on va y revenir, on va développer tout ça tout au cours de l'émission. On va y aller par étapes. Claire Balva, cette définition elle vous convient?
Oui, moi je dirais que les crypto-monnaies, c'est pas un ensemble homogène, hein. Il y a plein de crypto-monnaies différentes, mais effectivement, l'idée c'est de faire circuler sur des infrastructures qui sont décentralisées, donc sans banque centrale, des monnaies ou des actifs, donc sans intermédiaires qui peuvent être des intermédiaires privés ou publics.
Eh bien, Claire Balva, on va poursuivre avec vous. Vous êtes directrice stratégie chez Desbloc, le premier compte courant à intégrer un portefeuille crypto en France. Si un client vient vous voir en vous disant « alors moi, je n'y connais rien, mais j'ai entendu dire qu'on pouvait devenir très riche très rapidement, mais aussi tout perdre très rapidement », qu'est-ce que vous lui répondez ?
Alors, factuellement, c'est vrai, on peut devenir très riche très rapidement et on peut aussi perdre toute sa mise très rapidement. Tout dépend dans quoi on investit. Effectivement, on peut rappeler les règles de prudence basiques. C'est un actif avec un risque de perte en capital. Donc, c'est comme quand vous achetez des actions en bourse. Forcément, vous pouvez perdre votre argent, vous pouvez aussi en gagner beaucoup. Donc, soyez raisonnable, investissez un peu tous les mois et surtout renseignez-vous sur ce que vous achetez. Ça, c'est vraiment le plus important. Il faut pas aller acheter de la crypto-monnaie parce qu'on a envie de faire x300 en deux semaines. Ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est de s'intéresser à pourquoi les crypto-monnaies existent, qu'est-ce que la monnaie. Et je pense que c'est ça qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui y croient et c'est pas juste un investissement comme un autre.
Est-ce que c'est pour monsieur et madame tout le monde ou est-ce qu'il y a des conditions?
Alors non, il n'y a pas de conditions, c'est-à-dire que, alors, évidemment, sur les plateformes, il faut être majeur, mais sinon, il n'y a pas de conditions pour en acheter. Il faut donner votre identité, comme quand vous vous inscrivez sur n'importe quelle néobanque. Mais ensuite, ça peut être pour monsieur et madame tout le monde. Maintenant, je le redis, l'essentiel, c'est de comprendre ce qu'on achète.
Très bien. Alors, les crypto-monnaies sont parfois perçues comme favorisant certaines activités criminelles, comme l'escroquerie et le blanchiment d'argent. Céline Antonin, je reviens vers vous. Est-ce que ça, c'est un cliché ou est-ce que cette réputation est, selon vous, justifiée?
Non, c'est une réputation qui est justifiée puisque effectivement on a des risques de blanchiment, de blanchiment de l'argent, notamment du terrorisme, de logiciels rançonneurs. On sait que de nombreux rançons, par exemple via les systèmes de ransomware en anglais, donc de logiciels rançonneurs, ont été demandés en Bitcoin, par exemple, justement eu égard à l'anonymat qui règne, puisque comme on le rappelait, c'est effectivement un système décentralisé. Vous ne passez pas par une banque, et donc c'est un système qui se passe de pair à pair, c'est-à-dire entre des individus, et il est, enfin voilà, et donc c'est impossible de tracer un certain nombre de transactions. Donc effectivement, ce risque de fraude est prégnant.
Claire Balva.
Oui, il est vrai que les criminels sont toujours les premiers à aller sur les nouvelles technologies. Donc on le voit avec l'IA par exemple, les criminels vont utiliser tout ce qui est en leur possession.
Ils ont toujours une longueur d'avance
pour concevoir des arnaques. Voilà, ils essayent en tout cas d'avoir une longueur d'avance. Donc c'est pas illogique que les criminels soient allés sur les crypto-monnaies comme ils vont sur le téléphone mobile, internet, etc. En revanche, quand on regarde en proportion dans le monde des crypto-monnaies, aujourd'hui la proportion de transactions illicites, elle est entre 0,1 et 0,3% du total. Donc c'est pas du tout représentatif du secteur des crypto-monnaies dans son ensemble. Et juste pour revenir sur ce qui est dit là, il existe quelques crypto-monnaies anonymes. Elles sont rares, elles sont interdites aujourd'hui de listing sur les plateformes d'échange. En revanche, la grande majorité des crypto-monnaies, comme Bitcoin par exemple, sont traçables dans la mesure où vous pouvez, vous comme moi, aller sur Internet et voir la liste de toutes les transactions qui ont été faites en Bitcoin. Et cette liste, elle est donc également accessible aux autorités qui peuvent donc remonter l'ensemble des transactions. Et dès lors que la personne veut transférer ses Bitcoins par exemple en euros, aller voir une plateforme qui va leur donner l'identité de la personne en question. Donc il y a quand même une grande traçabilité, ce qui fait que c'est pas si facile pour les malfrats d'utiliser la grande majorité des crypto-monnaies aujourd'hui.
Cécile Antonin, vous souhaitiez réagir rapidement?
Céline, je me permets juste de rebondir sur ça, je vous en prie. Sur cette question-là, c'est vrai qu'il y a parfois une confusion qui est faite sur le fait qu'en fait vous vous identifiez via un pseudonyme, donc vous avez cette notion de pseudonyme qui existe, mais vous ne savez pas forcément qui est la personne qui est au bout, qui ouvre un compte, etc. Donc il y a effectivement maintenant un certain nombre de directives, notamment les directives MiCA et autres, qui essayent justement de réglementer ça. Mais vous avez encore un certain nombre de cas dans lesquels vous avez l'anonymat qui perdure parce que on ne peut pas vraiment savoir de quel individu il s'agit. Et je vous dis, un certain nombre de logiciels rançon fonctionnent via, sur ce mode des crypto-actifs, ce qui montre que c'est quand même difficile de tracer les gens.
On va reparler un petit peu du Bitcoin parce que c'est la plus célèbre des crypto-monnaies à ce jour, inventé en 2009 au lendemain de la crise financière par un certain Satoshi Nakamoto. Ça, c'est un pseudonyme parce qu'en fait, son vrai nom est inconnu. Au départ, méfiant envers les banques et les gouvernements, les adeptes de la crypto souhaitaient éliminer les intermédiaires, on l'a vu, et favoriser ainsi les libertés individuelles grâce à la décentralisation, l'intraçabilité, l'anonymat et l'accessibilité à son argent partout et tout le temps. Internet oblige. Bon, une philosophie punk au départ, sauf qu'en décembre 2024, la valeur du Bitcoin a atteint un record, 100 000 euros plus 120% en un an, et que parmi les entreprises détenant le plus de Bitcoin, on retrouve des géants comme Tesla. Est-ce qu'il s'agit là d'une récupération totale, d'une utopie libertaire par le marché, ou est-ce que certaines valeurs de départ subsistent malgré tout, Claire Balva?
Alors c'est une très bonne question et effectivement, on le voit dans les dernières années, la finance traditionnelle s'est emparée petit à petit du sujet crypto. Alors là, on parle particulièrement de Bitcoin, mais du sujet crypto plus généralement. Tout simplement parce qu'il y a eu une demande. Elles se sont retrouvées face à des clients qui leur ont dit « moi, j'ai très envie d'acheter de la crypto ». Certains chefs d'entreprise ont cru dans certaines cryptos particulièrement, donc ils y ont investi à titre personnel ou via leur entreprise. Donc ce sujet qui, au départ, était très marginal, s'est finalement normalisé au sein des secteurs traditionnels. Donc c'est une réalité. Ça ne veut pas dire pour autant que la promesse originelle n'est plus remplie. Et si on parle de Bitcoin, la promesse originelle, c'était, et je reprends le titre du livre blanc, un système de cash électronique de pair à pair. Et ça, techniquement, eh bien, ça fonctionne et c'est toujours le cas. Terme. Alors bien sûr, il y a certaines entreprises qui en possèdent beaucoup, etc. Donc il peut y avoir une montée ou une descente des cours qui peut être parfois spectaculaire quand on n'a pas l'habitude de ce type de volatilité. Néanmoins, il est possible de posséder réellement ces bitcoins soi-même, de les envoyer à l'autre bout de la planète en quelques minutes, sans intermédiaire. Et donc cette promesse-là, elle existe toujours.
Donc voilà, c'est un instrument, on n'est pas forcément responsable de comment il est utilisé, c'est ça ?
Alors, bien sûr, et Bitcoin, j'ai envie de dire, c'est pour les gentils et les méchants. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est ça. C'est-à-dire que il y a forcément des personnes qui vont utiliser Bitcoin qui ne partagent pas vos convictions. C'est bien le principe. C'est le principe d'un système de cash électronique de pair à pair. Il n'y a pas de filtre. C'est-à-dire que Bitcoin ne vous demande pas votre couleur de peau, votre sexe, votre âge quand vous en achetez. Ce sont éventuellement les entreprises qui peuvent vous demander ça si elles sont régulées et qu'elles doivent le faire. Mais le système Bitcoin, lui, n'a pas de filtre.
En France, la dernière étude de l'Association pour le développement des actifs numériques menée par Ipsos et Deloitte révèle que 10% des Français, de jeunes hommes plutôt aisés en majorité, déclarent posséder des crypto-monnaies. C'est 2% de moins que l'année dernière. C'est un peu moins qu'en Allemagne et en Italie et très loin des 40% de jeunes adultes américains qui déclarent en posséder. Pour vous, Claire Balva, c'est une question de culture, de rapport au risque et à l'innovation, c'est ça ?
Oui, notamment. Alors, je suis quand même surprise du chiffre de 40%. Moi, j'avais plutôt 20% en tête, mais dans tous les cas, ça reste au moins le double. Donc, c'est forcément beaucoup plus aux États-Unis.
Ça dépend des sources.
Je dirais que même au-delà du sujet crypto, le sujet investissement est beaucoup moins tabou aux États-Unis, tout simplement parce qu'aux États-Unis, il faut investir pour se préparer une retraite, ce qui n'est pas forcément le cas en France, puisque voilà, l'État prépare ça pour nous, je dirais. Et donc, il est beaucoup plus courant pour un Américain d'aller investir en bourse, par exemple, que pour un Français. Et donc, les cryptos, dans ce cadre-là, sont un investissement beaucoup plus logique pour un citoyen américain, donc ça ne me surprend pas. Mais c'est vrai qu'il y a en France aussi une culture de la centralisation qui, je dirais, génère une méfiance pour les personnes lambda vis-à-vis du sujet crypto-monnaie. On l'a vu tout à l'heure dans le micro-trottoir, on voit bien qu'il y a plein de personnes qui sont encore très méfiantes vis-à-vis du sujet crypto.
Effectivement, alors juste sur le chiffre, vous avez raison, c'est 40% des jeunes Américains, ah oui. 20% des Américains. Voilà.
France Culture, le magazine du week-end. Oumi Diallo.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur France Culture dans le magazine du week-end consacré aux enjeux géostratégiques des crypto-monnaies. Un tournant historique mardi 18 juillet après des débats houleux, Donald Trump signe le Genius Act, un projet de loi qui encadre l'émission, la gestion et la régulation des stablecoins, jetons stables en français. Alors à la différence d'autres crypto-monnaies, la valeur des stablecoins est indexée sur celle d'une monnaie traditionnelle, ce qui permet de garantir sa stabilité concrètement. Un stablecoin vaut 1 dollar. Désormais, les banques, entreprises agréées par les États ou fédérales, peuvent émettre jusqu'à 10 milliards de dollars de stablecoin sans autorisation fédérale. Lors de la signature de ce texte de 57 pages, le président américain s'est adressé aux acteurs du secteur. On l'écoute.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
Thank you very much.
Merci beaucoup. Nous avons travaillé dur. C'est une loi importante. Le Genius Act, ils l'ont nommé d'après moi. Et je vous remercie pour ça. Quelle loi d'enfer. Félicitations pour cet incroyable accomplissement. Vous avez amélioré notre dollar, vous l'avez rendu fort et puissant. C'est bon pour le dollar, c'est bon pour le pays.
Bon pour le dollar, bon pour les États-Unis. Hubert de Vauplane, vous êtes avocat au barreau de Paris et professeur de droit bancaire et financier international à Sciences Po Paris. Vous avez signé plusieurs articles consacrés à ce sujet dans la revue Grand Continent. Donald Trump a-t-il raison ?
De son point de vue, oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, quand on regarde le contenu de l'acronyme, il dit que c'est un très bon nom, d'ailleurs Genius, mais sans le développer, c'est quand même le contenu qui indique l'objectif assigné à la loi. C'est-à-dire qu'il s'agit de promouvoir très clairement la puissance américaine, la puissance du dollar sur l'économie. Et pour ça, le président Trump estime que les stablecoins sont un instrument permettant de continuer la domination via le dollar de l'économie américaine.
C'est d'ailleurs, je rebondis, c'est d'ailleurs c'est écrit noir sur blanc, hein, ça vient de tomber. Le groupe de travail sur les crypto-monnaies de la Maison Blanche considère que les stablecoins sont un outil essentiel pour préserver l'hégémonie du dollar américain. Donc voilà, on est
exactement dedans. Et alors, ce qu'on ne sait pas forcément de l'autre côté de l'Atlantique, c'est que cette loi, le Genius Act, a été voté par une majorité, comme on aimerait bien avoir d'ailleurs chez nous en France, c'est quand même 2/3, 1/3, c'est-à-dire qu'il y a une grosse partie des démocrates qui se sont ralliés aux républicains pour voter ce texte. Donc c'est pas du tout un texte républicain contre démocrate, il y a vraiment une vision du monde qui est partagée, même si elle n'est pas unanime, bien évidemment, mais elle est partagée par une grande partie de la classe politique et économique, autour de stablecoin, autour du rôle du dollar en tant que tel, et comme moyen de continuer l'hégémonie du dollar. Donc c'est quand même 2/3, 1/3 de vote en faveur du Genius Act, c'est loin d'être négligeable.
Et en quoi ce Genius Act sert l'hégémonie du dollar ?
Alors, le dollar est aujourd'hui la devise de référence pour les réserves des banques centrales. Grosso modo, les 2/3 des réserves des banques centrales sont libellées en dollars. Et selon les régions du monde, entre 70 et 80% du commerce international sont aussi libellés en dollars. Donc l'économie qu'on pourrait dire réelle, l'économie de transactions dont on a tous les jours le résultat dans nos assiettes ou ailleurs se réalise en dollars, à commencer par le pétrole et même les ventes d'Airbus ou autres, etc. Donc pour que l'économie de demain, c'est-à-dire l'économie numérique et non plus l'économie réelle au sens plus tangible, que l'économie de demain, c'est-à-dire l'économie des services qui va se transformer de plus en plus en économie numérique, continue d'utiliser le dollar, il faut accompagner l'évolution de la monnaie. Et cette évolution de la monnaie, elle peut prendre soit la forme d'une monnaie officielle qui serait comme l'euro numérique.
Oui, on va en parler un peu plus tard, on va revenir dessus.
Soit une autre forme, qui est une forme qu'on pourrait appeler de monnaie privée, pour permettre la réalisation de ces échanges sur l'économie numérique. En clair, c'est une véritable un bras de fer qui s'annonce entre la Chine et les États-Unis. La Chine qui veut dominer les services numériques de demain, les États-Unis qui n'ont pas dit leur dernier mot, mais qui surtout ont une arme redoutable, qui est les stablecoins en dollars, c'est-à-dire justement ces quasi-monnaies en dollars.
Étonnamment, Donald Trump n'a pas toujours été favorable aux crypto-monnaies. En 2021, il avait même qualifié le bitcoin de fraude, menaçant la souveraineté monétaire des États-Unis. Mais son discours change pendant la campagne pendant laquelle il empoche plus de 57 millions de dollars grâce à la vente de jetons de crypto-monnaies de la société World Liberty Financial. C'est une plateforme américaine d'échange co-dirigée, tenez-vous bien, par ses trois fils et détenue à 60% par la famille Trump. Et au soir de son entrée en fonction, le président américain lance sa propre crypto-monnaie purement spéculative. Hubert de Vauplane, est-ce qu'on peut parler de liaison dangereuse ?
Je n'emploierai pas forcément ce mot. Il y a des intérêts privés, des intérêts publics. Mais en l'espèce, le fait d'avoir un acteur politique qui intervient dans un domaine économique qu'il contrôle mérite une attention particulière. C'est de la politique américaine, certainement. Les reproches qui sont faits ou les commentaires qu'on entend sont plutôt autour généralement du fait que les émissions qui ont été effectuées par Donald Trump auraient été faites à des moments par rapport aux évolutions du cours du Bitcoin qui lui était peut-être favorable. Bon, en fait, sur cette question, on tombe sur une question beaucoup plus large qui est celle des potentiels conflits d'intérêts entre le secteur privé et le secteur public. Vous avez remarqué, parce que vous avez évoqué tout à l'heure la signature du Genius Act, vous avez remarqué que derrière ou à côté le président, il y avait toute l'industrie américaine du numérique et des cryptos. Absolument. Qui était derrière lui. Donc c'était quand même assez exceptionnel, c'est-à-dire que c'est pas un acte tout seul dans son coin, encore une fois, c'est un acte, une loi, pardon, j'employais un anglicisme, une loi qui a été adoptée par 2/3 sur laquelle l'ensemble des acteurs américains sont d'accord, et l'ensemble des acteurs américains étant d'accord, Donald Trump ayant une activité économique à côté de ses activités politiques, eh bien, il fait partie de ce monde économique, en quelque sorte. Ce n'est pas du tout notre manière de voir les choses en Europe. C'est manifestement moins problématique aux États-Unis. Là, je pense qu'on a une question de culture économique par rapport à la culture politique.
Oui, il agit en quelque sorte en businessman, ce qu'il est d'ailleurs au départ. Exactement. Céline Antonin, vous souhaitiez réagir au lien entre Donald Trump et le secteur de la crypto-monnaie.
Oui, enfin bon, on l'a dit, hein, déjà sa campagne électorale a été financée par des grandes entreprises de crypto-actifs. Je préfère le mot de crypto-actif parce que, comme je vous le disais, ça n'a pas pour moi les caractéristiques d'une monnaie. Par ailleurs, on disait qu'il y avait une prise de participation, effectivement, de la famille Trump dans un certain nombre d'entreprises crypto. Enfin, et vous avez cité World Liberty Financial. Et voilà, donc du coup, on voit bien que quand vous êtes à la fois juge et partie, il est certain que vous faites voter des règles qui peuvent être favorables à vos affaires privées. Bon, voilà. Je reviens pas sur le conflit d'intérêts. Peut-être juste un point sur la suprématie du dollar. On l'a dit et je pense que c'est très important. Ce Genius Act, il consacre vraiment pour moi cette suprématie du dollar puisque, en fait, l'idée c'est de développer des stablecoins qui vont être adossés au dollar. Donc, aujourd'hui, on a 99% des stablecoins en circulation qui sont adossés au dollar et 80% des transactions en stablecoins qui ont lieu en dehors des États-Unis. Donc ce qu'on voit, c'est que vraiment, c'est un moyen de renforcer ce dollar, puisque en fait, pour schématiser ce qui se passe, c'est que les stablecoins en dollars doivent reposer sur une réserve correspondante d'actifs. Et en fait, on lie la liquidité justement des crypto-actifs à la dette à court terme des États-Unis. Donc ainsi, ça permet de faire acheter des bons du trésor américain. Et ça, c'est très favorable au dollar dans un contexte où les pays émergents essayent de réduire leur dépendance à la monnaie américaine. Donc c'est vrai que pour Donald Trump et les États-Unis, il y avait une volonté de contrer justement cette volonté des autres pays, en fait, de se dédollariser. Et donc grâce à ce Genius Act, effectivement, le dollar retrouve sa position de force.
Alors elle aussi, elle aime l'argent, elle nous en parle en français.
Là que j'aime l'argent. Chaque fois que j'en vois, je suis blême longtemps. À Chicago ou bien à Londres, à Paris ou au Pakistan, j'ai décidé de ne répondre qu'à ceux qui ont du répondant. Car moi j'aime l'argent qui résout, je l'avoue, toujours tous les problèmes urgents. Vous semblez, monsieur, quelque peu ébahi.
Ginette Garcin, 1964, est de retour en direct sur France Culture. Face à cette offensive crypto-monétaire américaine bien réelle, fin juin, lors d'une intervention à Bruxelles, Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, avait alerté, je cite, « Les stablecoins sont une source potentielle de risques systémiques et de vulnérabilité ». Fin de citation. Hubert de Vauplane, est-ce que vous partagez l'inquiétude de Christine Lagarde pour l'économie européenne ?
Non. Non à court terme.
Ça, c'est clair.
Voilà. Question précise, réponse, j'espère, claire.
Voilà.
Non à court terme. Pourquoi ? Parce que le volume d'émissions comme le volume de transactions aujourd'hui sur les stablecoins n'ont rien à voir avec les volumes d'émissions des monnaies légales et les volumes de transactions sur les monnaies légales. Donc, on est encore très loin d'avoir un risque systémique. Maintenant, si les usages des stablecoins et des crypto-actifs de manière plus large viennent à se développer, c'est un risque qui est pointé du doigt non seulement par la BCE, mais aussi par les organisations internationales comme le FMI, la Banque mondiale et puis d'autres un peu plus techniques. Donc, il y a effectivement un risque si demain les stablecoins deviennent un mode d'usage de règlement et de paiement plus important. Ceci étant dit, on a quand même une vision assez intéressante de la Banque Centrale Européenne vis-à-vis des stablecoins, que ne partage pas d'ailleurs la Federal Reserve de New York, donc la Banque Centrale Américaine, la Federal Reserve en général et celle de New York en particulier, sur le rôle des stablecoins. Alors on a oublié de dire quelque chose pendant cette semaine des cryptos, ce qu'on appelait aux États-Unis le Crypto Week, quand a été signé le Genius Act. Il y a eu deux autres textes qui ont été aussi discutés, donc un qui s'appelle une loi anti-dollar numérique.
Étonnant.
Voilà, une loi qui interdit finalement à la Fed et à toute organisation étatique américaine d'avoir des projets et de lancer un dollar numérique. Là où les Européens, les autres banques centrales font exactement l'inverse. Alors exactement. Pourquoi ? Mais pour une raison assez simple, parce que comme le dollar, comme on l'a déjà dit, est déjà la monnaie dominante et que le dollar sous forme de stablecoin est déjà aujourd'hui le stablecoin dominant, pourquoi créer une monnaie officielle numérique là où j'ai déjà une fonction qui est remplie, certes par les acteurs privés, sur ce dollar numérique.
Alors on va juste expliquer la différence entre une monnaie numérique et une crypto-monnaie, sinon on va se perdre un peu. Alors une monnaie numérique, elle provient d'une banque centrale. C'est ça, et c'est simplement la forme numérique de l'argent physique.
Exactement.
Voilà, contrairement à une crypto-monnaie. Et donc, vous aviez évoqué cet euro numérique qui est prêt, mais qui n'est pas encore en circulation. Alors, expliquez-nous un petit peu quel serait l'avantage, en fait, pour la BCE de développer, de mettre en circulation cet euro numérique.
Alors, pour être assez franc, on cherche les cas d'usage, on cherche les avantages. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui pas très bien à quoi ça peut servir, puisque les systèmes de paiement européens, les modes de fonctionnement des banques en Europe avec les paiements sont solides, résilients et tous les objectifs qui vont avec. En fait, le principal argument développé depuis quelques mois, parce qu'il y en a eu quand même pas mal qui ont évolué au cours du temps par la Banque Centrale Européenne, c'est de dire que l'euro numérique est un outil de souveraineté européen alors non plus au dollar, mais face aux acteurs privés américains que sont Mastercard et Visa. Ce qui est exact, quand vous payez aujourd'hui par votre carte bancaire, l'essentiel des transactions passe à un moment par ces réseaux qui sont des réseaux détenus par des entreprises américaines, Visa ou Mastercard. Face à cette réalité, la Banque centrale, depuis quelque temps, parce qu'elle avait d'autres arguments avant, nous dit il faut donc réagir et donc avoir un euro numérique qui fasse concurrence à ces acteurs américains. Donc c'est pas tellement sur le stablecoin lui-même que sur la prédominance des acteurs américains.
Donc de limiter la dépendance que l'Europe a par rapport à ses opérateurs privés, ses moyens de paiement.
Ouais.
D'accord.
C'est ça. Et là, cet argument sur la souveraineté monétaire, il me paraît à la fois réel concernant Visa et Mastercard, mais ça date pas de l'apparition des stablecoins, c'était déjà le cas avant. Alors, pourquoi tout d'un coup se réveiller Mais il me paraît beaucoup moins réel pour l'utilisation pour votre baguette de pain, acheter un stablecoin en dollars. On en est quand même assez loin. Je pense que ni vous ni moi allons télécharger sur notre toilette des stablecoins dollars pour payer notre baguette de pain.
Non, je vous le confirme.
Voilà. Donc c'est pour ça que ce risque me paraît, en tous les cas aujourd'hui, assez hypothétique, ça paraît plutôt comme un discours convenu, mais dans lequel on cherche des cas d'usage opérationnels qui ne sont pas encore réalité aujourd'hui.
Claire Balva, vous souhaitez réagir ?
Oui, l'euro numérique, il faut bien se rappeler son origine. Il a été, ce projet a été démarré lorsque Meta envisageait de sortir sa propre crypto-monnaie. Donc l'euro numérique, en fait, c'est un projet défensif face à la multiplicité des nouvelles monnaies qui arrivent et qui peuvent être émises par des acteurs privés ou pourquoi pas par des communautés en ligne de manière plus ou moins décentralisée. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un projet défensif qui se cherche encore aujourd'hui. C'est pas un projet qui a un ADN très clair, mais c'est tout simplement la réaction d'une banque centrale, alors là on parle de la BCE, mais évidemment que c'est la même chose dans d'autres parties du monde, qui se dit, mon Dieu, je vois plein d'autres monnaies qui arrivent, comment est-ce que je vais faire pour maintenir ma souveraineté ? Mais il y aurait une autre manière de maintenir cette souveraineté, ça serait de faire en sorte que, en l'occurrence en Europe, notre monnaie, l'euro, puisse être un petit peu compétitive face au dollar sur ces mêmes infrastructures. Et donc, on pourrait très bien faire en sorte de favoriser de manière régulée le développement de stablecoin euro émis par, alors ça peut être par des acteurs crypto ou par des banques, idéalement des acteurs basés sur le sol européen pour ne pas dépendre d'acteurs américains, puisqu'il faut le rappeler, 99% des stablecoins sont indexés sur le dollar, mais même pour les stablecoins basés sur l'euro, ils sont émis souvent par des acteurs américains.
Donc, de rentrer dans la course d'une certaine manière et donc, de marcher dans les pas, finalement, de Donald Trump avec un Genius Act à la française, c'est ce que vous voulez dire ?
Pourquoi pas, ou à l'européenne. Mais
à l'européenne,
le risque, si on se concentre exclusivement sur un projet d'euro numérique en occultant complètement le sujet stablecoin, c'est qu'on enterre petit à petit notre souveraineté numérique et que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, les Européens utilisent des stablecoins indexés sur le dollar ou des stablecoins émis par les Américains. Et donc, c'est très important qu'on ne laisse pas ce champ complètement libre aux Américains.
Céline Antonin, vous souhaitiez intervenir. Alors, très rapidement, vous avez un avis qui diffère peut-être concernant la souveraineté européenne.
Non, je pense que de toute façon, l'euro numérique a été une réaction à plusieurs choses. Donc, d'une part, on le dit, aux actifs numériques, donc à l'émergence des big tech et des fintech aussi. Donc, on a donné l'exemple de Facebook.
Excusez-moi, Céline Antonin,
de Libra, hein.
Pardon, je vous coupe, on vous entend très mal. On va vous reprendre juste après. Je vais redonner la parole à Hubert de Vauplan qui souhaitait réagir à la souveraineté européenne.
Oui, pour compléter ce que disait Claire Balva, pour sans rentrer trop dans la technique, en fait, quand on parle de monnaie numérique, de monnaie de banque centrale numérique, il y a deux types de monnaie de banque centrale numérique. Il y a celle de tous les jours, les billets, les pièces, qui seraient remplacées par un portefeuille numérique pour acheter sa baguette de pain ou toute autre chose. Ça, on le voit. Mais tout ce qu'on voit pas, mais qui est en volume beaucoup plus important, c'est ce qu'on appelle les monnaies de gros, c'est-à-dire ce qui sert à faire les transactions sur les marchés financiers, bien évidemment, mais les transactions dans le négoce international aussi. Et quand on parle de monnaie numérique de banque centrale, en fait, elles ont deux formes et deux objectifs potentiellement différents. L'un pour la vie de tous les jours, ce qu'on appelle la monnaie de détail, et l'autre pour les transactions internationales ou les transactions sur les marchés financiers. Et là où la BCE a raison, et d'ailleurs la Banque centrale, la Banque de France est en pointe sur ce sujet, c'est de privilégier un euro numérique pour les transactions internationales, pour les transactions sur les marchés financiers, face à tous les actifs qui vont petit à petit devenir numériques, ce qu'on appelle tokenisé en bon français, si je puis dire. Et donc, il y a quand on parle d'euro numérique ou de monnaie numérique, il faut bien faire la distinction, encore une fois, et sur la souveraineté, c'est vraiment cette question. Parle-t-on d'une souveraineté monétaire pour acheter sa baguette de pain, donc l'euro numérique de détail, sur lequel moi je ne vois pas de risque, ou parle-t-on au contraire de souveraineté sur un aspect beaucoup plus important qui est l'évolution des actifs, et pas uniquement des actifs financiers, mais des services qui seront demain numériques, et pour lesquels il faut une monnaie qui permette de régler. Et ça, c'est l'euro numérique qui pourrait y répondre, mais c'est pas l'euro numérique qui va permettre de payer sa baguette de pain. Il aura une autre forme.
Et est-ce que c'est pour ça que 85% du total des banques centrales dans le monde affirment travailler à court terme sur un projet de monnaie numérique ? C'est pour les raisons que vous venez d'expliquer ?
Alors, moi, je suis plutôt de l'avis de Claire Balva en disant que la plupart des projets des banques centrales dans le monde sont des réactions plutôt que de l'anticipation et l'innovation. C'est-à-dire, c'est plutôt face à la réaction de Meta à l'époque et d'éviter, surtout dans les pays qui ont une inflation galopante et ou qui ont une monnaie qui n'arrête pas de perdre de la valeur, les deux ayant marchant souvent de pair, de se dire bon bah petit à petit ma monnaie qui était déjà peu utilisée dans les échanges courants va être remplacée non pas par du dollar mais par des stablecoins. Aller au Liban ou aller tout simplement dans le grand souk d'Istanbul, vous pouvez payer très facilement maintenant, pas seulement au Liban mais au grand souk d'Istanbul avec des stablecoins dollars. Donc vous êtes un gouvernement d'un pays qui a une monnaie qui est faible et une monnaie qui se dévalue, son risque, c'est d'être non seulement dollarisé, mais dollarisé via un dollar numérique émis en plus par des entreprises privées. Donc c'est un triple défi en quelque sorte. Mm-hmm. On n'a pas ce risque-là en Europe. Faut pas rêver, on n'a pas ce risque-là. Donc, d'accord. Pour reprendre votre question, ça dépend des pays, les projets. Les objectifs de la Banque Centrale Européenne.
Certains s'en sont déjà dotés, hein. D'ailleurs. Voilà. On peut citer la Chine, les Bahamas ou encore le Nigeria, exactement. Bon, avec plus ou moins de succès, mais.
Ouais. Donc, les objectifs assignés aux banques centrales sur la numérisation de leur monnaie ne sont pas du tout les mêmes selon, encore une fois, la situation géopolitique de leur pays.
Et alors, vous l'aviez évoqué rapidement en deuxième partie. Est-ce que c'est ça l'avenir du système financier? Est-ce que c'est des monnaies numériques?
Alors, je dirais que la monnaie numérique n'est que la contrepartie d'un actif numérique. Dans les marchés financiers, quand vous achetez une action, contre de l'euro ou contre du dollar. Vous allez payer votre action, votre obligation en euros ou en dollars. Donc tous les marchés financiers aujourd'hui fonctionnent sur des systèmes qu'on appelle de règlement livraison, avec des grosses tuyauteries, où vous avez d'un côté les titres et de l'autre côté la monnaie, et ces titres et ces monnaies s'échangent dans ces grosses tuyauteries, de manière à ce que les risques soient quasi nuls entre l'échange titres et l'échange espèces, et l'échange monnaie, pardon. du moment où vous numérisez les actifs, encore une fois, que ce soit une action, une obligation, mais même demain des services, ben, la numérisation de cet actif fait que vous ne pouvez plus utiliser les mêmes tuyauteries des marchés financiers traditionnels. Vous êtes obligé de créer une nouvelle tuyauterie. Une tuyauterie qui sera elle-même numérique pour que les titres ou les actions rentrent dans ces tuyaux, mais que la monnaie elle-même rentre dans ces tuyaux. Or, l'euro ou le dollar traditionnel n'utilise pas ces tuyaux-là. Hein, on va pas rentrer dans le détail technique, mais en fait, on a besoin de recréer une architecture. Donc, au fur et à mesure que les marchés financiers vont numériser les actifs, ce qui commence à être le cas, mais ça va pas prendre 2 ans ni 5 ans, ça va prendre 15 ans, 20 ans ou plus, hein. Au fur et à mesure que les actifs financiers vont se numériser, on aura de plus en plus besoin d'avoir un actif de règlement, donc une monnaie de règlement numérique. Et le défi aujourd'hui, c'est de savoir si cette monnaie de règlement des actifs financiers, ça sera une monnaie légale, l'euro numérique, ou ça sera une monnaie privée, un stablecoin.
Donc, crypté. Céline Antonin, on a récupéré la connexion, vous avez la parole.
Oui, alors du coup, je suis désolée, j'ai pas pu intervenir et suivre l'intervention qui a précédé. Mais donc, ce que je disais, c'est que pour moi, l'euro numérique, c'était une réaction à plusieurs défis. Vous avez l'émergence des actifs numériques, vous avez l'émergence des big tech et des fintech. Et donc, on a montré, par exemple, Facebook avec l'exemple de la Libra. Donc, ils voulaient créer leur propre monnaie. Et donc, c'était une réaction d'introduire l'euro numérique. Et de même, il y avait une autre menace pour les banquiers centraux européens, qui est le fait d'être concurrencé par d'autres monnaies de banques centrales. C'est-à-dire que vous avez eu, par exemple, la Chine qui a eu de l'avance dans le développement de son yuan numérique. Et donc, c'est scruté de près par la Banque Centrale Européenne également.
Merci beaucoup. Alors, j'ai une dernière question. Hein. On va faire un petit tour de table pour vous trois. Moins technique, hein, dans un monde aux ressources finies, en proie à la crise climatique, on sait que c'est une industrie énergivore. Est-ce que cette course ne nous conduit pas tout simplement, passez-moi l'expression, mais dans le mur, en clair, à quoi bon, Hubert de Vauplane ?
Voilà, la question posée comme ça mérite d'être élargie à toute la vision qu'on a de la numérisation, de la digitalisation.
Absolument.
Pour prendre un anglicisme. Voilà. Donc, est-ce que c'est pas les monnaies numériques toutes seules, c'est est-ce que la numérisation de l'économie, avec de manière générale l'utilisation de l'intelligence artificielle ou autre, ne sont pas finalement dans source de de besoins électriques, de besoins d'énergie supérieurs à ce que l'on peut produire, ou en tous les cas, ce qu'on peut produire pour l'énergie.
Mais justement, là, est-ce que c'est un besoin ?
Mais alors, moi, je vous reposerai la question dans l'autre sens. Ce n'est pas le métier d'avocat que je réponds une question par une question. Mais en fait, si vous n'êtes pas convaincu que l'économie de demain va se numériser, votre question est pertinente et on se dit à quoi bon ? Si vous êtes convaincu que l'économie de demain, mais demain, encore une fois, ce n'est pas dans 10-15 ans, hein, c'est dans les vraiment très lointains.
C'est déjà aujourd'hui.
Mais va se numériser. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'accompagner ce mouvement. En fait, votre question, elle est plutôt, est-ce que j'ai besoin de continuer une croissance économique dans un monde qui va se numériser, ou est-ce que je vais plutôt dans un monde, non pas de décroissance, mais dans un monde, en tous les cas, qui va refuser une évolution technologique. On ne peut répondre à la question du dollar numérique et de stablecoin que si on répond à cette question générale.
Merci. Céline Antonin, très rapidement.
Oui, alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense qu'on peut numériser le monde pour des usages, en tout cas, indispensables. Par exemple, accompagner la transition énergétique pour des industries propres, etc. Mais c'est vrai que quand vous voyez comment fonctionne, par exemple, le Bitcoin, pour parler du crypto le plus célèbre, vous voyez qu'il y a effectivement un besoin de minage qui est très consommateur d'énergie. Et on peut se poser la question de se dire, est-ce que c'est vraiment indispensable et est-ce qu'il ne faut pas garder...
Merci.
Cette énergie pour d'autres usages.
Merci. Claire Balva, très rapidement.
Oui, alors effectivement, ça me permet de reboucler avec ce que je disais en introduction, le secteur n'est pas homogène. Et donc, quand on parle de consommation d'énergie, en réalité, on se focalise sur certaines cryptos et pas sur d'autres. Donc, tout ce qu'on a dit, par exemple, sur le Genius Act et les stablecoins, en réalité, consomme très peu d'énergie. Et donc, c'est pas vraiment un sujet. Alors, ils consomment comme tout service numérique, mais c'est pas vraiment un sujet pour ces actifs-là. Le sujet de consommation énergétique, il se pose plus pour Bitcoin et quelques autres actifs. Et donc là, je pense que la vraie question, c'est comment l'industrie du minage, qui est une industrie qui, comme toutes les industries, est sensible aussi au changement climatique, peut faire en sorte de se verdir au maximum, de consommer de l'électricité fatale et pas de l'électricité carbonée.
Merci, c'est passionnant. On pourrait continuer, mais on va s'arrêter là. Merci Claire Balva, co-auteur de Bitcoin et crypto-monnaie facile. Céline Antonin, économiste et auteur de Crypto-actifs, une menace pour l'ordre monétaire et financier. Et merci à vous, Hubert de Vauplane, avocat expert en droit bancaire et financier international. Et c'est maintenant l'heure d'accueillir Fabienne Lemayeux, rédactrice en chef à La Croix, pour sa chronique du samedi.
France Culture, le magazine du week-end, Oumi Diallo.
Bonjour Fabienne.
Bonjour Oumi.
Pendant qu'en France, un nouveau projet de loi cadre présenté mercredi en Conseil des ministres devrait permettre d'accélérer et de simplifier la restitution des œuvres pillées pendant la colonisation aux pays demandeurs, outre-Rhin, d'autres restitutions s'organisent plus intimes cette fois.
Oui, effectivement, tout en saluant les avancées en termes de réparation mémorielle de cette future loi cadre, je vous propose de raconter ici un travail plus discret, moins protocolaire, presque confidentiel, mais tout aussi important, la restitution aux descendants de déportés d'objets ayant été retirés aux prisonniers. C'est une des missions des archives d'Arolsen, fondée en 1948 dans l'ancien bastion SS de Bad Arolsen, dans le Hesse allemand. Unique au monde, le centre conserve plusieurs millions de documents sur les persécutions nazies. 80 ans après la libération des camps de concentration, notre reporter Alice Le Dréau est allée se perdre dans ces rayonnages où se côtoient les fiches d'identité des déportés, leur parcours de persécution, mais aussi quelques milliers d'effets personnels confisqués aux prisonniers. Depuis la fin de la guerre, le personnel des archives tente de retrouver leurs descendants pour leur rendre les objets ayant appartenu à leurs aïeux.
Et ces miracles sont rendus possibles grâce à des bénévoles venus de toute l'Europe. Comment mène-t-il l'enquête ? J'imagine que c'est loin d'être simple.
En effet, c'est dans les pas de l'un d'entre eux, le Belge Georges Sounier, traducteur de théâtre à la ville et détective de la mémoire le reste du temps, qu'Alice Le Dréau s'est glissée pour nous le raconter. Elle décrit la collecte d'indices, patiente et minutieuse, les fausses pistes et les rebondissements dignes d'un roman policier. Elle explique aussi, une fois les propriétaires retrouvés et les descendants identifiés, la difficulté à briser les années de silence, de questions sans réponse et parfois de tabous autour de l'histoire familiale, car il n'est pas si aisé de réparer les mémoires volées.
Mais une fois retrouvées, Fabienne, chacune de ces mémoires individuelles contribue au travail collectif de mémoire autour de la déportation.
Oui, une montre, un portefeuille, une photo. Les effets personnels restitués sont littéralement habités par la mémoire des défunts et ce qui est rendu aux descendants de déportés n'a pas de prix. Bouleversement, déflagration émotionnelle, réparation ou encore consolation, aucun mot n'est trop fort pour exprimer ce qui se joue alors. Et par ces histoires individuelles dont est restituée la dignité et l'humanité, se tisse notre mémoire collective. Réparer ou du moins apaiser les douleurs du passé, c'est peut-être envisager des lendemains un peu plus sereins. Pour qualifier son travail mémoriel, Georges Sounier parle de mission, presque de devoir. Chaque restitution est, dit-il, une garantie supplémentaire que la barbarie n'a pas gagnée.
Merci Fabienne Lemayeux. L'enquête d'Alice Le Dréau sur les détectives d'Arolsen est à lire sur le site lacroix.com et dans La Croix l'Hebdo de ce week-end à samedi prochain. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain même heure pour une émission consacrée à l'exploitation des délinquants mineurs, un système qualifié de criminel par l'UNICEF, qui sont ces jeunes à la fois bourreaux et victimes. Que peut la loi ? Nous ferons le point avec nos invités. Bonne suite de programme sur France Culture.